Merci, Monsieur le Président. Et merci à l'Institut Millet d'avoir organisé cette table ronde à laquelle je suis heureux de participer pour discuter avec mon vieil ami Jean-François de questions très intéressantes, sur lesquelles d'ailleurs j'ai un accord assez général sur plusieurs points majeurs dont je ne parlerai pas beaucoup, et qui, du reste, ne me paraissent pas poser de vrais problèmes si on prend Kant au sérieux. La relation entre le droit et la morale, ce que tu dis, est très, tout à fait clair, lumineux même. L'existence d'un impératif catégorique proprement juridique, ça me paraît patent. Et la possibilité d'une lecture quasi positiviste de Kant, ça fait longtemps que je plaide pour ça, donc je ne vais pas te contredire, et qui fait que Kant n'est pas tout à fait du côté de Dworkin, ni même de Habermas dans les débats contemporains. Je suis parfaitement d'accord avec tout ça. Simplement, ce que je voudrais faire, justement, c'est déplacer la question par rapport aux débats contemporains. Les débats contemporains, c'est, comme tu le rappelles, le débat entre le déontologisme, le conséquentialisme et l'éthique des vertus. Je crois que ces questions ne sont pas celles de Kant. Ça, c'est les questions des revues à comité de lecture d'aujourd'hui, c'est pas les questions de Kant.
Il aurait été recalé.
Oui, je pense, oui, certainement. Les questions de Kant, me semble-t-il, c'est celles de ses contemporains, c'est-à-dire c'est les questions de des morales du sentiment, de ce qui différencie ces morales de ce qui était dominant au XVIIe siècle, c'est-à-dire ce qu'il y a de commun, disons, entre Hobbes et les jansénistes. Et d'autre part, c'est l'héritage aristotélicien et la façon dont celui-ci a été repris de manière à la fois grandiose et probablement subversif par Leibniz et évidemment par Wolff. Alors c'est plutôt de ça que je parlerai pour ma part dans un premier temps. Et d'autre part, dans un deuxième temps, je dirais deux ou trois choses sur la question de l'existence ou non de la philosophie d'histoire chez Kant et de son rapport à la philosophie politique. Alors, comme dirait Alain Renaud, auquel on faisait allusion tout à l'heure, prenons le risque d'être clair, je dirais pour ma part que je pense qu'il y a quelque chose comme une philosophie d'histoire chez Kant, c'est ça qui permet qu'il y ait quelque chose comme une philosophie politique. Et qu'autrement, il n'y a pas de philosophie politique quand il y a bien une philosophie du droit, sinon il n'y a pas de philosophie politique. Alors, donc le premier point, disons, d'Aristote à Kant, en passant par Hobbes, peut-être quelques réflexions sur la signification de ce que je continue à appeler le formalisme kantien, à condition d'accepter les réserves que tu as faites avec lesquelles je suis tout à fait d'accord. Alors, pour faire court, je laisse de côté, on y reviendra peut-être dans la discussion, la question des morales du sentiment, de l'héritage de Hume et de Rousseau et toutes ces choses-là. Je voudrais simplement dire deux ou trois choses sur la relation avec l'héritage aristotélicien, qui me paraît très importante parce que je crois que ce qui permet de comprendre la vraie signification de l'impératif catégorique dans la fondation de la métaphysique des mœurs, c'est pas la différence avec l'impératif hypothétique qui est tout à fait évidente, c'est la différence avec l'impératif assertorique. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose qui est général et qui pourtant ne s'impose pas nécessairement. Je crois donc que l'important c'est la critique des morales du bonheur et de la prudence qui va se prolonger depuis les fondements de la métaphysique des mœurs jusqu'à un texte que je trouve tout à fait capital, c'est le fameux texte de la critique de la raison pratique sur le paradoxe de la méthode dans et qu'on va retrouver ensuite d'ailleurs jusqu'à la fin, par exemple dans la critique des morales de la théorie de la médiété dans la doctrine de la vertu, c'est un fil continu. Alors quel est le sens de cette critique de l'aristotélisme? Je crois que le sens c'est de montrer que le modèle de la souveraineté du bien, qui a été construit dans un contexte naturaliste chez les anciens, et qui a été réinterprété dans un contexte fortement théologique dans le christianisme, qui est dans la tradition supposée être la véritable fondation de la vraie morale, de celle sans laquelle on peut rien faire de bien, etc., est en fait une doctrine qui est incapable de fonder la moralité, parce qu'en dernière analyse, elle rend possible une confusion entre le bonheur et le bien-être. Alors, Kant n'est évidemment pas quiétiste, mais il est quand même plus proche de Fénelon que Bossuet, pour dire les choses clairement. Et c'est pas un théoricien du pur amour, mais l'insistance qui est tout à fait caractéristique de quelqu'un comme Bossuet à être scandalisé par l'idée que les hommes ne cherchent pas avant tout le bonheur est quelque chose qui lui paraîtrait suspect. Alors, c'est ce qui fait que le grand problème chez Kant, c'est de, comme il le dit dans le texte que j'ai rappelé de la critique de la raison pratique, c'est de fonder la distinction entre d'une part goutte et vol, et de l'autre besen et hubel. Et il faut le faire, comme il le dira dans ce texte, en partant d'un principe de détermination de la volonté indépendant de la faculté de désirer, et ce principe, dit-il, ne peut être que la loi pratique a priori qui détermine immédiatement la volonté. On est donc conduit au paradoxe de la méthode, qui est que le concept du bien et du mal ne doit pas être déterminé avant la loi morale, à laquelle, d'après l'apparence, il devrait servir de fondement, mais seulement, comme il arrive ici, après cette loi est pareille. Alors, ce qui est très remarquable dans ce texte, c'est que c'est une polémique qui attaque la philosophie et la théologie traditionnelle au nom de son incapacité à fonder la moralité, mais qui, d'une certaine manière, prolonge une première critique moderne de la tradition, qui était évidemment d'inspiration opposée à celle de Kant, puisqu'elle elle fonde la morale dans l'anthropologie empirique, etc. C'est celle qu'on trouve, par exemple, chez Hobbes. Il retrouve, en fait, sous une forme tout à fait nouvelle, l'idée fondatrice du droit moderne, à savoir qu'on ne doit pas partir de la diversité des biens, même hiérarchisés, on doit partir de la généralité de la loi et de son caractère impératif. Simplement, ici, c'est pris dans un contexte métaphysique qui est évidemment très différent de celui de Hobbes, mais le point commun, c'est que c'est toujours dirigé contre la même chose, c'est-à-dire la synthèse traditionnelle entre le théisme chrétien et, disons, l'héritage aristotélicien. Alors, je crois que c'est ça qui, pour moi, reste l'enjeu central de la philosophie pratique de Kant. Et j'ajouterai au passage qu'à mon avis, c'est ça, et pas du tout une proximité avec Hegel, avec la Wittgenstein, etc., qui explique les textes que tu as cités tout à l'heure. Bon, Filonenko, qui est pas aussi, qui est parfois agaçant, mais qui est quand même souvent un assez bon commentateur, avait une bonne formule, c'est la fondation transcendantale de la morale commune. La morale commune, c'est pas la Wittigkeit, c'est ce que tout le monde, de tout temps, s'est attendu à entendre comme la morale. C'est pour ça, d'ailleurs, que répondant à un contradicteur qui disait qu'il n'y avait rien de nouveau dans sa doctrine, Kant dit, mais il n'y a rien de nouveau, en effet, parce que personne n'est assez fou pour proposer une morale nouvelle. Tout ce qu'on peut faire, c'est proposer une fondation nouvelle de la morale. Et cette fondation nouvelle, elle est fondée réflexivement, et elle est fondée de telle manière que les prétendues vérités de la religion ne seront plus des vérités théoriques, mais vont être redécouvertes ensuite comme postulat de la raison pratique, etc. Alors à partir de là, on a une critique de tout ce qui tend à corrompre le droit et la morale en se fondant sur des déterminations empiriques ou sur la faculté de désirer, qui est, je crois, le point d'ailleurs central dans les questions... par exemple dans la polémique avec Constant, mais ça nous entraîne trop loin. Mais par ailleurs, ce qu'il faut voir aussi, c'est que, inversement, dans cette doctrine, et c'est là qu'on trouve la distinction entre le droit et la morale, ça n'empêche pas que, et ça je ne crois pas qu'il y ait de rupture décisive entre même entre la première critique et la suite, on est toujours dans le fait que nous savons que la raison est un pouvoir pratique, etc., qu'elle a un pouvoir, mais nous ne savons pas ce qu'il en est très bien dans la sphère sensible. Moi, à mon avis, Kant n'est jamais sorti de la troisième antinomie. Enfin bon, c'est une thèse qui peut être discutée. Mais si bien que sur ce point, d'ailleurs, il a toujours raisonné comme Hobbes ou comme La Rochefoucauld, en considérant qu'on n'est jamais sûr que les hommes ne sont pas méchants. Et c'est ça que veut dire, d'ailleurs, la distinction entre le droit et la morale, c'est que l'obligation extérieure n'a pas besoin de l'obligation intérieure pour être, pour fonctionner. Elle a besoin du droit comme système de contrainte. Mais par ailleurs, comme par ailleurs, on est chez Kant et pas chez Hobbes ou chez Bentham, on a quand même l'idée que si la philosophie pratique a un sens, il faut que les hommes soient libres dans un sens précis, qui est qu'on puisse leur imputer la responsabilité de leurs actes. Et c'est pour ça que je crois que l'évolution, tu as tout à fait raison sur le fait que le Vilcou acquiert progressivement une importance de plus en plus grande, mais je ne crois pas que ça tienne tellement à une évolution de la pensée de Kant, ça trouve simplement à un déplacement de la réflexion vers des nouveaux objets. C'est-à-dire que quand on parle de la religion, pour les philosophes d'aujourd'hui, c'est un très beau texte, etc., mais enfin, il est quand même question de choses triviales comme le salut éternel. Il s'agit de savoir si on peut vous imputer vos actes. Et comme on a besoin du postulat de l'immortalité de l'âme pour que le souverain bien, c'est-à-dire la combinaison de la vertu et du bonheur soit possible, etc., il faut bien qu'un jour on puisse vous imputer la responsabilité de vos actes, et si vous n'êtes pas libre, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pareil dans le droit. Pour qu'on puisse condamner les criminels, il faut qu'on puisse dire que d'une certaine manière, ils sont libres. Et c'est pour ça que le point essentiel à partir de ce moment-là, c'est le vilcur et pas divineux. Enfin, je crois, du moins. Alors, quelques mots. Maintenant, bon. Oui, pour terminer, je dirais que dans tout ça, on a une philosophie morale, une philosophie du droit, avec une distinction du droit et de la morale qui est intéressante. On n'a pas une philosophie politique, parce qu'une philosophie politique, ça donne, c'est pas une philosophie du droit, c'est une philosophie de la justice. Alors, je ferai pour ma part, sur ce point, je pourrais faire une comparaison entre Kant, qui nous dit que le droit est possible même dans un peuple de démons, et Jung, sur ce point beaucoup plus raisonnable, qui nous dit que la justice est nécessaire parce que les hommes ne sont pas entièrement bons, mais qu'elle est possible parce que les hommes ne sont pas des démons. À mon avis, c'est là qu'on entre dans la philosophie politique. Autrement, on est dans la philosophie du droit, c'est très bien. Alors, c'est un peu différent quand on arrive au texte sur l'histoire. Alors, je ne vais pas me discuter indéfiniment, parce que c'est de la philosophie, de la théorie, etc., mais essayons de voir ce que c'est. Alors, j'ai deux points. Un point d'abord précis, où là je suis en désaccord avec toi sur l'interprétation d'un texte du Conflit des facultés. Dans le Conflit des facultés, Kant montre, comme chacun sait, que le progrès du droit n'est pas le progrès de la moralité, ce qui va d'ailleurs de soi, parce que le progrès du droit est pensable sans la liberté, alors que la moralité n'a aucun sens s'il n'y a pas la liberté. Mais tu rabats ça, me semble-t-il, sur ce que dit Kant quelques pages auparavant, dans le passage sur le démonisme moral, dont, à mon avis, enfin, je suis obligé de dire, je pense qu'il n'a rigoureusement rien à voir avec ça. Alors, tu nous dis que dans ce texte, Kant penserait à la révolution, à la terreur, à Robespierre, à cet homme qui a pris la vertu au sérieux. Mais justement, dans ce texte, ce n'est pas de la vertu qui est l'histoire, c'est du bonheur. Le démonisme, c'est pas la vertu. Et j'ai été au passage surpris, d'ailleurs, par l'idée que tu énonces là, que les Khmers rouges représenteraient une étape suivante dans la radicalisation de le démonisme moral. Je suis tout à fait ravi d'apprendre que le but de Pol Pot, c'était de faire le bonheur public. C'était peut-être la poursuite du rêve de la vertu, mais le rêve de la vertu n'est pas le rêve du bonheur. Donc, il est question d'autre chose. Alors, de quoi est-il question dans ce texte ? Il est question, je crois, des théories du progrès, c'est-à-dire que c'est la deuxième thèse, c'est que le genre humain est en constante progression par rapport à sa destination morale, dont l'énoncé dans le texte de Kant est en fait une réfutation interne de cette thèse, c'est une réfutation leibnizienne d'une interprétation vulgaire de l'idée que le monde est susceptible de bien. C'est-à-dire que ce que dit Kant dans ce texte, c'est que s'il y a du bien et du mal dans le monde et que les choses se déplacent, ça ne pourra pas faire un progrès parce qu'on sera toujours dans le meilleur des mondes possible. On peut toujours admettre que la masse de bien et de mal inhérente à notre nature reste en son fond constamment la même, etc., etc. C'est de ça qu'il est question. C'est pas du tout la même chose. Alors en revanche, bon, il me reste 5 minutes, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe dans les les autres textes, alors notamment dans le plus grand texte, l'idée d'une histoire universelle du point de vue cosmopolitique, sur lequel les uns et les autres, nous avons tous donné notre point de vue, et nous continuons à le faire. Alors, entre parenthèses, moi je ne connais personne qui défende la thèse que tu as dite, c'est-à-dire que la philosophie de Kant et la philosophie de Hegel seraient la même. S'il s'agit de Ferrier et de Renaud, moi, je ne suis pas d'accord avec eux, mais ils ont passé leur vie à dire que ce n'était pas du tout la même chose, justement, puisque ce n'était pas le même.
Le début du troisième tome de philosophie politique, la note à l'intention des lecteurs hegéliens, existe à dire, bon, ce n'est pas tout à fait pareil, mais quand même, la ruse de la nature kantienne et la ruse de la raison hegélienne, c'est la même direction.
Ce n'est pas le même statut, donc, et comme c'est des philosophes...
Ce n'est pas Ferrier et Renaud, là, c'est Ferrier tout seul.
Non, mais Ferrier étant meilleur que Renaud, c'est pas grave. Mais en l'occurrence, pour eux, ce qui est déterminant, parce qu'ils sont kantiens ou ils se veulent kantiens, c'est le statut. Donc, comme il y a un statut réfléchissant d'un côté... déterminant de l'autre, on n'est plus du tout dans la même chose, même si le contenu de la thèse est le même. Alors on peut trouver que ça ne règle pas la question, je suis bien d'accord, mais il ne faut pas leur attribuer une thèse qui, encore une fois, le contraire de la vérité. D'une manière qui n'est pas la mienne, donc c'est pas mon sujet, parce que moi je n'ai jamais pensé comme eux que ces textes relevaient simplement de la philosophie théorique. Mais je ne crois pas non plus qu'il relève d'une application de la philosophie pratique, parce que la question qui est posée, bon, ça nous entraînerait là, cette discussion, mais la question qui est posée, ce n'est pas la question de savoir comment on peut construire une science de l'histoire, ce que j'imagine Ferry, mais ce n'est pas non plus de savoir comment on peut appliquer la philosophie morale à un domaine particulier. Ça, c'est peut-être le cas dans l'anthropologie, mais pas là. Il s'agit de donner un schéma d'interprétation de l'histoire qui nous permet d'avoir un espoir sur l'avenir historique. C'est-à-dire que c'est une réponse tout à fait hypothétique, peut-être ironique, peut-être pas en toute rigueur philosophique, mais à une question qui est la troisième question. C'est ni la deuxième ni la quatrième. Il ne s'agit pas de savoir ni ce que je dois savoir, ni simplement qu'est-ce que l'homme, mais est-ce que je suis en droit d'espérer quelque chose devant le spectacle désolant de l'histoire humaine. Alors je pense que c'est tout à fait important et tout à fait central, sauf si on laisse de côté, dans la critique de la non-pratique, comme une espèce de fatras pénible, les postulats de la non-pratique. Je crois que c'est relativement important. Alors, tu dis d'ailleurs comme argument que Kant nous dit que son schéma est compatible avec n'importe quel concept du vouloir ou de la liberté, et dans ce cas, tu nous dis que ça prouve bien que ce n'est pas une philosophie, puisque lui, il n'a pas n'importe quel concept du vouloir et de la liberté. Oui, mais la réciproque n'est pas vraie. C'est pas parce que c'est compatible avec n'importe quel concept du vouloir ou de la liberté que l'hypothèse, ça veut dire simplement que, ça veut dire précisément que l'hypothèse développée dans l'idée est compatible avec les diverses conceptions de la liberté, même celle de Kant. Mais inversement, la doctrine de Kant n'est pas compatible avec n'importe quelle théorie de l'histoire, et ce qui fait que cette théorie est kantienne et n'est pas autre chose, c'est le fait que si le progrès de la civilisation ne suffit pas à nous donner la culture morale, elle y contribue. Mais elle ne suffit pas à nous donner la culture morale. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on n'est pas dans le démonisme moral, que ce n'est pas la même chose. Donc, en gros, je crois qu'il y a bien une philosophie d'histoire qui n'est pas une application de la philosophie théorique, ni une application de la philosophie pratique. C'est une réponse compliquée, avec dont le statut est compliqué, à la question que suis-je en droit d'espérer. Réponse qui ne me dispense d'aucune obligation morale. Alors quel est l'enjeu? L'enjeu, par exemple, c'est que le dessin de la nature, contrairement aux lois de l'histoire du marxisme-léninisme, ne me dispense pas d'obéir à la morale commune. Alors que dans les interprétations ultérieures du sens de l'histoire, on dira que si j'agis dans le sens de l'histoire, je peux exterminer mon prochain facilement. Là, c'est beaucoup plus difficile. Et je pense du coup qu'on a affaire à quelque chose dans lequel la notion de concept cosmologique vont être pris certes avec des guillemets, mais dans un sens un peu plus fort que celui que tu lui donnes. Bref, le souverain bien n'est pas dans la moralité, ni dans le bonheur, ni dans la vertu.
Cosmopolitique.
Comment ?
Cosmopolitique.
Ah, bah, non, tu dis, toi-même, c'est les deux.
Oui, toi,
tu rabats le concept cosmologique, le concept cosmopolitique. Moi, je pense que le concept cosmologique, cosmique, au-delà de la... la critique de l'aristotélisme et de la tradition suppose qu'on en a repris sous une forme nouvelle une certaine partie à travers les postulats de la raison pratique, etc. Bref, je suis d'accord avec beaucoup de prémices, mais pas avec certaines des conclusions. Et je pense que là, il y a bien une philosophie politique de Kant, qui tient au fait, là ça nous entraînerait trop loin, mais qui tient au fait que je suis plutôt du côté d'Arène dans la question de savoir si la critique du jugement est pertinente ou pas. Mmh. Alors, ce que tu dis peut se défendre sur le plan strictement philologique, à cela près que, là encore, il y a la question de l'histoire qui réapparaît, Dieu sait qu'elle réapparaît dans la critique du jugement, donc on est renvoyé à la même discussion. Et d'autre part, bon, que je pense que si tu as raison, dans ce cas, il n'y a pas de philosophie politique kantienne, il y a une philosophie du droit. C'est tout. Et c'est très bien, d'ailleurs. Ça nous laisse autre chose.
Merci, Philippe. De la même manière, je me demande si c'est pas mieux que Jean-François réponde.
Je vais essayer de répondre rapidement, et partiellement d'ailleurs, parce qu'il y avait énormément d'observations qui méritent réflexion et donc auxquelles je ne peux pas répondre immédiatement. Alors, tout à fait d'accord sur l'horizon aristotélicien et le fait qu'il s'agit bien de débattre avec Aristote. Ça serait intéressant aussi de voir, d'ailleurs, quelqu'un l'avait fait, mais je ne me souviens plus exactement si c'était dans une thèse ou un texte publié, le rapport à Épicure. Le rapport à Épicure, qui est un rapport très étrange.
C'est Boyer.
Comment ?
C'est Boyer.
C'est peut-être Alain
Boyer. C'est
Boyer
qui a fait un livre sur Kant et Épicure. Mmh. Choisir résolument le deuxième.
Oui. Mais il y a une sorte de fascination de Kant pour la position épicurienne comme étant finalement l'alternative raisonnable ou absolue qu'on est obligé de prendre au sérieux et de respecter. Mais en tout cas, d'accord pour le rapport à Aristote et donc au moral prudentiel. Fait qu'il s'agit de construire une alternative. Alors sur le démonisme moral, il faut sans doute que je révise un petit peu ce que j'ai dit, et en particulier je suis d'accord évidemment pour dire que le démonisme, la question du bonheur et la question de la vertu ne sont pas si... Juste alors, quelques mots sur la philosophie de l'histoire. Évidemment, c'est un peu provocateur de dire qu'il n'y a pas de philosophie de l'histoire chez Kant. J'avoue que dans ce que tu m'as dit, je comprends toujours pas pourquoi la philosophie de l'histoire, pourquoi il faut une philosophie de l'histoire pour qu'il y ait une philosophie politique. Parce qu'on peut très bien concevoir une philosophie.
D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que le peu de philosophie politique qui est chez Kant se trouve dans ces textes-là.
Ces textes-là, et pas dans la doctrine du droit, pas
parce
dans.
Parce que là, c'est pas de la philosophie du droit, c'est l'histoire d'un système de sociabilité, etc. Ça, je pense que c'est de la philosophie politique.
Alors.
Pas de la philosophie du droit.
Pour ce qui est de la philosophie. C'est en partie une querelle de mots, philosophie de l'histoire, pas de philosophie de l'histoire. Moi, ce que j'ai fait, j'ai repris les définitions que Kant donne de la philosophie, et il m'a semblé que si on prend stricto sensu la définition qu'il propose de la philosophie, la philosophie, l'histoire ne peut pas être un objet de la philosophie comprise comme métaphysique.
Oui.
Et quand il n'y a pas de métaphysique de l'histoire. Il ne peut pas y en avoir. Donc, et effectivement, j'ai tiré la philosophie de l'histoire du côté de l'anthropologie. Mais ce que, me semble-t-il, il fait lui-même, les textes dans lesquels il parle de l'histoire sont des textes qu'il définit comme des textes anthropologiques. Donc où il est question non pas de ce que l'homme doit faire, mais, comme il dit, de ce que l'homme peut et doit faire à partir de la nature qui est la sienne. C'est-à-dire, la nature étant ce qu'elle est, puis-je faire un bon usage, un mauvais usage, comment, de ma naturalité, étant entendu,
je suis tout à fait d'accord. Ce que je pense, par ailleurs, c'est que l'expression philosophie d'histoire de Kant, c'est une expression scolaire que en fait les gens abandonnent assez facilement. Si tu prends, bon, Fiodenko, par exemple, a écrit un livre qui s'appelle La théorie qu'en Suède.
Oui, oui, mais j'ai bien noté qu'il avait.
Pas dire,
on peut pas dire philosophie. Oui.
Moi-même, si je peux me permettre, je commence oui. ma petite édition en disant la philosophie d'histoire, ou mieux, pour mieux dire.
Il y a quand même eu 4 ou 5 livres qui ont été publiés sur la philosophie kantienne de l'histoire.
Le système des philosophies d'histoire, tu veux dire
Non, mais il y en a plein. Il y a Mulioni, qui l'a republié récemment. Il y a Jovell.
Oui.
Et on admet, c'est pas ce qu'il y a de mieux à mon avis, mais je veux dire, le point commun, c'est que bah oui, il y a une philosophie de l'histoire, ça pose pas de problème. Or moi, il m'a semblé que ça posait problème. C'est pour ça que je dis, c'est une réflexion philosophique sur l'histoire, c'est pas une philosophie de l'histoire, compte tenu de l'énorme poids sémantique qu'a acquis ce terme. Parce qu'en fait, quand on parle des philosophies de l'histoire... on dit bon, ben c'est ce développement d'un rationalisme délirant qui conduit via Hegel à Marx.
Oui, mais il me semble qu'en général, par exemple, même Mulioni, c'est un peu scolaire, mais justement, les gens qui parlent de philosophie kantienne de l'histoire commencent par dire que c'est pas la même chose que les choses en question. Donc.
Oui, mais alors du coup, il est quand même important de dégonfler la baudruche et de bien dire que qu'il y a un con. Alors, l'interprétation d'ailleurs que je propose, enfin, c'est pas une interprétation, j'ai été très frappé par le fait que dans le Narlas, parce qu'il y avait cette histoire de concept cosmique de la philosophie, qui, franchement, moi, ça m'avait toujours posé problème. Et dans le Narlas, Kant substitue à l'expression concept cosmique, conceptus cosmicus, conceptus cosmopoliticus. Et là, ça me semble faire beaucoup plus sens. De parler de la philosophie entendue du point de vue du citoyen du monde. Et en ce sens, tu as tout à fait raison de dire qu'il y a un lien avec la philosophie politique. C'est bien le citoyen du monde, et c'est à partir du point de vue du citoyen du monde qu'il est possible d'avoir une réflexion sur l'histoire en tant qu'elle... définit les voies possibles permettant aux objets... Parce que la philosophie politique est une discipline normative. Bien d'accord.
Bon.
Ah, bon. Alors, c'est pas de la philosophie, au sens étroit que Kant donne au terme.
Non, mais si, tout ce que j'écris depuis 20 ans repose sur l'idée que la philosophie politique n'est pas une discipline normative.
Non, mais peut-être qu'on s'entend pas même. C'est-à-dire que tu donnes une acception bien plus stricte au terme normatif que. Elle est normative, bien sûr que c'est. Enfin, comment on peut le nier que ça.
C'est pas exclusivement normatif, pas essentiellement normatif.
Non, t'es plus hegelien que moi, alors.
Enfin, peut-être, mais simplement, tu peux dire. Ce qui frappe au premier abord, c'est dans la politique d'Aristote, dans l'esprit des lois ou dans le prince de Machiavel, c'est pas que c'est normatif. C'est que c'est quelque chose qui nous dit des choses sur la condition humaine. Alors ça a des conséquences normatives tant que tu veux, mais ce qui est normatif, c'est une philosophie du droit, peut-être, une philosophie morale, tant qu'on veut. Mais la philosophie politique, c'est un genre très particulier, je crois.
Et, bon, on ne va pas entamer une discussion sur l'essence de la philosophie politique,
oui,
ici.
Bon, c'est... Ok.
Mais alors, si effectivement on l'entend ainsi, je veux bien admettre que ça change la question de l'histoire. Mais... Non, moi j'ai surtout voulu, en fait, j'étais au jury d'agrégation de philosophie quand ce texte était au programme, et je me souvenais à tout ce que j'ai pu entendre dire à propos de ce texte, par les candidats à l'oral de l'agrégation. Et je me disais, mais c'est pas possible.
C'est pour la prochaine fois qu'il sera au programme, que tu as écrit.
Voilà. Comme antidote.